Radio Campus, comme chaque mercredi, on a rendez-vous avec les gens qui, au niveau de l'université, font fonctionner ce grand ensemble. Donc on a eu l'occasion de voir déjà beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on va parler de la recherche en biologie et avec M. Joël Mazurier, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur d'IFR 147. Donc M. Joël Mazurier, bonjour.
Bonjour monsieur.
Donc la recherche, c'est évidemment un vaste domaine, difficile de traiter tout en une demi-heure. Néanmoins, qu'est-ce que l'Université de Lille a de spécifique en termes de recherche? Est-ce qu'elle a des missions particulières?
Disons qu'il faut peut-être définir la recherche en biologie, définir le secteur de la biologie. Alors biologie, quand on parle de recherche en biologie à Lille 1, on peut parler biologie, biologie santé ou biologie végétale. En biologie santé ne veut pas dire recherche clinique, qui est surtout réalisée sur le site de Lille 2 ou au CHRU ou à Pasteur. Ce n'est pas non plus une recherche biomédicale, c'est une recherche ici sur le campus qui est une recherche très en amont. On tire parti de la spécificité de l'île 1, où vous avez les domaines des mathématiques, de la physique et de la chimie qui sont représentés, et nous développons une recherche dite fondamentale, recherche fondamentale qui concerne principalement l'étude des biomolécules. Alors quand on dit biomolécules, ça peut être de l'ADN, ça tout le monde connaît, ça peut être des protéines. Nous nous consacrons majoritairement à l'étude des protéines, et l'étude des protéines, structure des protéines et surtout aussi fonction des protéines dans différents secteurs. C'est une recherche qui est à l'interface de la physique et de la chimie. En termes scientifiques, on appelle ça interface physique-chimie-biologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser surtout de nombreux équipements de la physique et de la chimie, comme de la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire ou de la spectrométrie de masse pour déterminer la séquence ou la structure des composés sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons aussi avec des chimistes pour quelquefois réaliser des synthèses de produits ou de biomolécules qui pourraient avoir un intérêt dans la recherche ou en aval de la recherche sur le fonctionnement. Ça peut être des drogues ou des inhibiteurs de synthèse de protéines. C'est aussi une recherche qui est à l'interface de l'informatique. Beaucoup de travaux maintenant en biologie nécessitent ce qu'on appelle un investissement important en bioinformatique. Alors bioinformatique, il s'agit surtout d'avoir l'aide des bioinformaticiens pour concevoir des méthodes et des outils informatiques pour analyser les données moléculaires dont nous avons besoin pour étudier ce qu'on appelle les réseaux de régulation, comment fonctionnent tous les participants de la nature à une fonction, ou aussi à la compréhension et à la prédiction de la biodiversité. Ça, c'est une chose. Et nous ne sommes pas loin quand même de la recherche dite biomédicale. Alors, nous n'intervenons pas dans la recherche clinique, ça, bien sûr, ni dans les essais thérapeutiques, mais nous étudions surtout les mécanismes et les processus biologiques. C'est une recherche qui va se situer en amont de la recherche clinique.
Donc, avec toutes ces recherches, ces études, on peut dire que le corps médical tient beaucoup à vous et à ce que vous lui procurez comme information.
Alors, bien sûr. Alors, comment vous expliquez ça? Alors, la recherche biomédicale sur le site de Lille, ça regroupe trois sites en fin de compte. Lille 1, bien sûr, donc recherche en amont. Mais vous avez aussi le site du CHRU et de Lille 2, qui sont localisés du côté de Loos, avec pas loin de Aura Santé. Alors ce sont des gens qui, quelquefois, ont le même type d'approche que nous, si vous voulez, mais qui sont beaucoup plus près du malade que nous ne le sommes. Nous ne sommes pas au contact du malade. Et puis vous avez un deuxième site qui est le site Calmet, qui regroupe l'Institut Pasteur de Lille et l'Institut de Biologie de Lille. Alors, dans la conception actuelle de la recherche sur la métropole lilloise, les trois sites travaillent en recherche biomédicale, à peu près sur les mêmes domaines, qui sont le cancer, les recherches sur les maladies neurodégénératives, et nous avons un programme qu'on appelle programme démence, sur la recherche sur les problèmes métaboliques, ça va aller des problèmes de diabète, si vous voulez, aux problèmes de l'hypoprotéine, de l'obésité, d'une manière générale. Et nous avons aussi un axe de recherche qu'on appelle infection, réponse inflammatoire et immunité. Plus, bien sûr, alors les trois sites travaillent sur les mêmes thématiques actuellement, si vous voulez, mais nous avons une organisation telle que chacun des sites travaille avec une méthodologie qui lui est propre. Sur le CHR, ça sera de la recherche clinique. Ici, de la recherche fondamentale basée sur la structure des protéines, si vous voulez, ou des acides nucléiques ou des choses comme ça. Et à Pasteur ou sur le site Calmet, ils auront plus une approche plus globale. Sur le site de Lille 1, nous avons beaucoup développé tout ce qui était, je vous disais, méthodologies qui font appel à ce qu'on appelle la protéomie, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est donc l'étude des protéines. Nous avons aussi des approches en imagerie, où on essaye de concevoir avec un certain nombre de physiciens ou de chimistes, d'imaginer de nouvelles techniques d'imagerie. Alors quand on dit imagerie, ce n'est pas de l'imagerie médicale, c'est peut-être de l'imagerie qui n'existe pas encore, quelquefois. On travaille beaucoup avec l'IEMN ou avec l'IRI, si vous voulez, qui est un institut qui vient de se créer sur le domaine de la Haute-Borne. J'avais répondu à...
Quelles sont, les 10 dernières années, les grands événements, peut-être, dans votre domaine de recherche que vous auriez à nous présenter?
Alors, les grands événements, c'est... je dirais qu'en termes de recherche, l'important, c'est de trouver. C'est pas toujours facile. Alors, les points forts, disons que nous avons une spécificité, enfin plusieurs spécificités. Nous avons beaucoup développé ce qu'on appelle la glycobiologie, c'est-à-dire l'étude des sucres. Alors, sucre, c'est pas du saccharose, mais ça peut être beaucoup de choses. Ce sont des molécules qui existent à la surface des bactéries ou des virus et qui vont être impliquées dans les phénomènes d'infection. On travaille sur la séquence d'identification de tous ces produits. On travaille aussi en biologie végétale sur l'amidon, par exemple, et les possibilités d'utiliser l'amidon, c'est de la farine, en fin de compte. Dans le domaine même, à la limite, du biomédical, pourquoi pas imaginer vacciner quelqu'un à partir de produits dérivés, si vous voulez, de l'amidon. Nous avons aussi une grosse équipe de recherche en protéomique, qui travaille sur la protéomique du cancer. Alors, protéomique du cancer, ça va être étudier toutes les chaînes de protéines qui sont impliquées dans la prolifération ou la différenciation des cellules cancéreuses, tumorales. On étudie cette partie-là. Nous avons aussi une grosse partie qui concerne l'étude des canaux. Alors, les canaux, c'est une espèce de sac qui est assez étanche, mais qui doit quand même avoir des relations avec le milieu extérieur. La membrane, elle est percée de trous. Ces trous laissent passer des ions, du calcium, dans notre cas. Ça, c'est l'unité de Renata Chaprin-Verskaya qui travaille beaucoup ça et qui a acquis une grande notoriété sur, justement, le rôle de ces canaux, ce qu'on appelle la canalopathie. Elle essaye, la canalopathie, dans le domaine du cancer, et surtout dans le domaine du cancer de la prostate. Elle essaye de définir ce qu'on appelle une signature, la signature calcique des cellules. Une cellule normale a une signature calcique bien identifiée. Dès que la cellule devient anormale, puisqu'elle devient cancéreuse, cette signature va changer, et on essaie d'utiliser ces variations dans la signature pour essayer de comprendre le fonctionnement. Le mauvais fonctionnement de la cellule, et quelquefois aussi toujours avec le but lointain de trouver une cible pour faire du diagnostic ou peut-être même des cibles dites thérapeutiques. Alors, canalopathie, c'est beaucoup dans le du cancer de la prostate. La protéomique, on la travaille beaucoup sur le cancer du sein, et la glycobiologie, parce que les sucres sont aussi impliqués là-dedans, on le travaille sur le cancer du sein, mais aussi sur le cancer du côlon. Mais jamais en tant que médecin ou recherche clinique.
Est-ce que vous jugez que les recherches actuellement sont rapides, correspondent à une attente des gens de guérir de leur cancer ou même de le détecter?
Alors, une recherche rapide, je ne pense pas que ça puisse exister, surtout dans ce domaine-là. Disons que
on a l'impression quand même qu'il y a de gros progrès qui ont été
bien
faits
sûr qu'il y a
en
des
10 ans.
Progrès. On trouve tous les jours quelque chose, mais la recherche ne peut pas se faire uniquement à l'échelon local. Nous sommes tous impliqués dans... Mm-hmm. C'est une recherche qui est européenne ou mondiale, et chacun a ses spécialités. Bon, des avancées, il y en a, bien sûr, mais elles ne sont pas toujours... elles n'ont pas toujours un retentissement immédiat, si vous voulez, parce que on imagine même qu'un programme de recherche va se développer en une dizaine d'années, si vous voulez, à condition, bien sûr, d'avoir le potentiel humain pour le travailler, donc l'intelligence, la matière grise, mais aussi le potentiel matériel pour réaliser la recherche. Ça va déjà prendre un certain temps pour le faire. Quand vous devez entrer ensuite, mais ça, ce n'est pas nous qui le faisons en général, sur ce qu'on appelle les essais cliniques, vous en reprenez pour une dizaine d'années. On ne peut pas lancer des produits ou des nouvelles cibles ou de nouvelles drogues sans vérifier d'abord chez l'animal et ensuite chez l'homme comment ça fonctionne, quels sont les risques et quel est le résultat. Il y a quand même pas mal de déconvenues dans ce domaine-là.
On parle beaucoup de l'Inde actuellement comme pays à la fois producteur de nouvelles médecine, on va dire, de nouveaux médicaments, de nouveaux produits, ou du moins de développement de produits, et aussi avec des gens, des médecins compétents, des spécialistes. Est-ce que vous voyez cette évolution aussi dans vos contacts que vous avez avec les autres universités?
Alors là, je n'ai peut-être pas bien compris le sens de la question.
Je demandais simplement si l'Inde vous paraissait un pays phare dans ce domaine, et si vous aviez des contacts avec...
Alors, oui, si vous voulez, la recherche... Alors, il faut bien différencier recherche biomédicale de la recherche fondamentale.
D'accord.
Quelle est la place de la France, si vous voulez, dans le domaine dans ce domaine de recherche? Je crois que le domaine de la France, c'est celui que son PIB lui permet, si vous voulez. Ce sont des recherches qui sont très onéreuses, d'une manière générale. Nous sommes peut-être, dans le domaine de la recherche biomédicale, au quatrième, cinquième rang de la recherche mondiale. Alors, en biologie, on n'a peut-être pas autant de prix Nobel qu'en physique, si vous voulez, mais bon, ça, c'est peut-être directement lié au financement de la recherche. Je crois que nos étudiants, les chercheurs que nous formons sont de très bonne qualité. Ils partent toujours en post-doc après leur thèse. Une thèse, ça va durer combien? 3 ans, 4 ans chez nous. Ils se retrouvent pendant 2 ans dans un pays étranger, dans un laboratoire étranger. Ils sont toujours très appréciés. Et disons que même si on prenait le cas des États-Unis, il y a de bonnes possibilités, une bonne probabilité que l'étudiant qui est parti en postdoc reste un peu plus longtemps que le temps prévu, si vous voulez. C'est une question de financement.
D'accord.
La recherche française est une recherche où il y a peu d'investissement, peut-être, du milieu industriel. Dans ce domaine-là, tout au moins.
Quand vous dites milieu industriel, vous voulez dire les laboratoires, la production?
Si vous prenez le cas de, je ne sais pas, pour prendre le type de fonctionnement de la recherche est à peu près identique dans tous les pays, si vous voulez. Nous, on fonctionne avec des recherches dites d'État, avec le CNRS, l'INSERM, l'INRA, c'est notre les universités, bien sûr. Dans des pays comme les États-Unis ou même le Japon, on a beaucoup travaillé avec le Japon, l'industriel finance de la recherche, mais pas forcément de la recherche industrielle. Il donne de l'argent sous forme de dons, si vous voulez. Alors en France, c'est peut-être compensé par les grands appels que l'on fait, comme mucoviscidose, ARC, ou des choses comme ça. Il faut trouver beaucoup, beaucoup d'argent pour financer cette recherche.
Voilà. Et est-ce que des relations existent avec les chambres de commerce, avec les lieux qui rassemblent les industriels d'une manière générale?
Alors, si vous voulez, il y a plusieurs manières de travailler avec les industriels. Où l'industriel connaît bien son problème d'une manière générale. Et donc il va, en France, tout au moins, développer une recherche qui l'intéresse directement. Il vient nous trouver quelquefois pour la compétence que nous développons. Je parle sur la recherche sur les sucres. Il y a beaucoup d'industriels dans le nord de la France qui touchent au domaine agroalimentaire. Et via le domaine agroalimentaire, avec ce qu'on appelle les nutricaments ou l'alicament, c'est-à-dire des molécules que l'on peut manger, qui ne sont pas des, mais qui peuvent avoir un rôle dans une thérapie ou une protection contre quelque chose, ils viennent nous trouver et nous travaillons avec eux, bien sûr. Mm-hmm. Maintenant, on a beaucoup développé en France les pôles de compétitivité. Alors, dans ce domaine-là, il y en a un à Lille qui est quand même très, très bien perçu actuellement et qui fonctionne très bien, c'est le pôle nutrition, santé, longévité. Mm-hmm. Vous voyez.
Alors, en termes de nutrition, il y a à la fois les modes et aussi les... C'est-à-dire les réflexions scientifiques qui aboutissent aussi à des constats, par exemple sur certains produits qui ne sont pas forcément si bons qu'on ne le pensait il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Par exemple, on parlait du sucre un petit peu tout à l'heure. C'est un aliment qui peut bien sûr être intéressant, mais d'un autre côté, l'excès nuit à la santé. Il n'y a pas que le sucre d'ailleurs.
Je crois que quand on parle de nutrition et j'aime manger, vous savez, il faut savoir prendre ses risques. L'abus en tout est toujours nocif. Alors dire qu'il ne faut pas manger, je ne pense pas.
Non, mais peut-être pas boire trop de boissons sucrées. Enfin, ça, c'est,
oui, ça,
c'est
bien
quand
sûr.
Même
on
en
sait
ce moment, il y a des campagnes.
Quand on dit sucré, ce sucre, c'est du saccharose, si vous voulez. Mm. Ou des produits qui remplacent le saccharose. Manger que du sucre... Alors, quand on fait de la culture de cellules, on les alimente en partie avec du sucre, du glucose. Mais on met aussi d'autres ingrédients. Il n'y a pas que ça. Il y a des facteurs de croissance, des facteurs de différenciation. Alors le sucre, c'est agréable au goût. Je crois que c'est indispensable à la vie. Mm-hmm. De là à vouloir sucrer tous ces aliments à grosse quantité, 5 sucres dans le café le matin, c'est peut-être beaucoup.
Voilà, donc tout est une question de raison.
Oh, je pense, oui.
Mm-hmm. Alors justement, dans la recherche, est-ce que ça rend humble et raisonnable de chercher?
Raisonnable de chercher?
Mmh. Est-ce que ça donne de la distance par rapport à...
Oh, la recherche, c'est peut-être une philosophie. Hein, mmh. le chercheur, je crois que vous avez de tout. Vous avez des chercheurs qui sont très farfelus, des chercheurs qui sont très froids, très distants, et qui ont des processus bien synchronisés. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse décrire le chercheur comme ça. Enfin, pour moi, ce qui est certain, c'est que le chercheur, ça ne sera jamais un professeur tournesol. Un chercheur, il faut beaucoup de temps pour le former, et il ne pourra pas trouver tout au long de sa vie, tous les ans, il ne pourra pas trouver dans tous les domaines. Mais je crois qu'il faut une part de fantaisie.
Alors, est-ce que le professeur, d'une manière générale, répond à la demande ou à sa préoccupation?
Alors, beaucoup de chercheurs en biologie ne sont pas forcément professeurs. J'en suis pas un.
Mmh,
il y a beaucoup de chercheurs qui sont dits professionnels. Alors, il ne faut pas... Bien sûr que l'enseignement, c'est une chose. Il faut former les gens. On ne peut pas déconnecter l'enseignement de la recherche. Ce sont deux choses qui sont liées. Je ne suis pas certain qu'on puisse faire toute sa vie les deux choses en parallèle, ou uniquement l'une ou uniquement l'autre, si vous voulez. Enseigner, c'est quand même un sacerdoce aussi.
Quand même, oui.
J'ai enseigné, j'enseigne encore un petit peu, mais bon, chacun, je crois, peut trouver une satisfaction à faire soit l'un, soit l'autre, même les deux quelquefois, ça c'est...
On a parlé un moment de crise de motivation pour les sciences. Est-ce que vous pouvez nous rassurer dans ce domaine?
Je vous dirais que je n'ai jamais compris cette chose-là. Crise de motivation, ça veut dire quoi? Bon, peut-être qu'à une certaine époque, les gens croyaient beaucoup en la science. On s'est rendu compte d'une manière ou d'une autre que la science pouvait avoir des conséquences, enfin que la découverte scientifique ou l'avancée scientifique pouvait avoir des conséquences quelquefois néfastes. Mais la connaissance, c'est une soif de connaissance. Hein. Vouloir trouver, découvrir, c'est une manière de voir. Alors la démotivation des étudiants, à une certaine époque, je me suis dit, la science est quand même difficile. On ne devient pas mathématicien comme ça, ou physicien, vous avez des équations, biologiste, il faut aussi beaucoup de connaissances. Est-ce que les étudiants ne se tournent pas vers des disciplines qui sont peut-être plus faciles d'abord, hein? Quand on est dedans, bon, il n'y a plus de problème. Je crois que, bon, si on prend le domaine des mathématiques, tout le monde ne peut pas être mathématicien. Il y en a peut-être de moins en moins, je ne sais pas. C'est une chose. Maintenant, vous avez peut-être aussi une question de... J'avais discuté avec des enseignants du secondaire là-dessus. qui me disaient on n'a plus d'étudiants en physique et en chimie, pourquoi l'étudiant, ce sont des lycéens, se démotive. Ils disaient non, pas forcément. Peut-être que même l'enseignant ne parlera peu de science ou de chercheur et conseillera à son étudiant de partir vers le domaine économique. Mmh. Il n'y a plus forcément de recherche fondamentale très, très puissante en France. Il n'y a plus beaucoup d'industrie. On retrouve même le même problème avec les écoles d'ingénieurs, si vous voulez.
Et en termes de débouchés, on peut dire qu'un étudiant qui entre dans une filière de formation de recherche, notamment en biologie, a après de grandes chances d'avoir des responsabilités.
Alors, responsabilité, ça veut dire, ça, c'est surtout un problème difficile. La recherche, ce n'est pas un travail de solitaire. Mm-hmm. Il faut toujours travailler sur un projet, un programme, et ça implique une équipe de recherche. Ça n'est jamais une personne, c'est 5, 10 personnes, ça dépend de... Donc c'est un travail de communautaire, de communauté. Ça c'est une chose. Avoir des responsabilités, donc ça prend du temps. Il faut d'abord se familiariser avec la recherche. Ce n'est pas toujours une chose évidente à faire. Quand on a acquis une certaine notoriété, une compétence dans le domaine, toujours sur la responsabilité de quelqu'un, il faut prendre son envol. Enfin, sur la responsabilité d'un chef d'équipe, si vous voulez. Avant de devenir chef d'équipe ou chef de projet soi-même, il faut s'exiler ou changer au moins de thématique pour, disons, s'ouvrir un petit peu l'esprit. Et quand on revient, il faut avoir découvert quelque chose. Il suffit pas d'avoir de bonnes idées. On vous juge toujours quand on va vous donner la responsabilité d'un projet. Vous êtes jugé sur votre passé et puis bien sûr aussi sur ce que vous projetez faire. Maintenant, des débouchés. Alors, quand vous préparez le métier de recherche, ça s'apprend à partir de Bac plus 5, disons, maintenant. Au niveau des masters, ça va vous prendre 3 ans, quand ça va bien, pour avoir une thèse, 4 ans peut-être, 2 ans de post-doc, vous voyez, ça recule, beaucoup quand même. Maintenant, tous les chercheurs, tous les thésards ne sont pas forcément destinés à devenir chercheurs. Vous pouvez quitter le domaine de la recherche et intégrer le domaine de l'industrie. Enfin, dans nos disciplines, l'industrie, ça peut être l'industrie pharmaceutique, ça peut être l'industrie agroalimentaire ou même quelquefois des choses auxquelles on n'imagine pas forcément, le domaine de l'informatique ou de la bioinformatique. Alors, des débouchés, il y en a. Ça, c'est sûr. Maintenant, tout dépend... quel salaire vous estimez. Il ne faut pas croire que vous allez être salarié à 10 000 euros par mois du jour au lendemain. Non, il y a des débouchés dans nos disciplines. Alors, dans le type de recherche que nous faisons, qui est une recherche en amont, nous formons des méthodologistes, si vous voulez. Donc, ils ne trouveront pas forcément un débouché dans la recherche médicale, mais ils pourront très bien trouver un débouché dans une industrie qui va utiliser les mêmes thématiques que nous.
Quelles sont les qualités qu'il faut, les prérequis, on va dire, pour entrer dans une carrière au service de la recherche?
Bon, je crois qu'il faut de la passion, de la patience peut-être, et un facteur chance, parce qu'on ne trouve pas forcément comme ça. Même quand on est très doué, il y a beaucoup de découvertes quelquefois, enfin qui se sont faites et qui se feront encore, uniquement par opportunisme, une erreur de manip, ça peut conduire à une découverte.
Est-ce que l'Université de Lille cherche des personnes pour renforcer ses équipes et quel genre de spécialistes, par exemple?
Alors, nous essayons, nous, de former nos étudiants dans les disciplines, les thématiques ou les problématiques que nous travaillons. Après ça, pour les rechercher, bien sûr que nous en recherchons, mais quand vous êtes chercheur ou vous passez dans le monde de si vous voulez devenir chercheur ou vous passez dans le monde de l'éducation nationale, ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs, les postes ne sont pas quand même très nombreux. Il y a bien sûr quelquefois des créations. Il y a eu 2 ou 3 ans les 1000 postes apportés par la loi, je ne sais plus laquelle, mais enfin, disons que Lille en a profité. Dans notre domaine, nous avons eu 3 créations de postes à ce niveau-là. Bon, en général, les postes existent et il suffit d'attendre le départ en retraite de quelqu'un. Maintenant, on peut aussi quand même sur les grands, ce qu'on appelle les EPST, hein, comme le CNRS, l'INSERM, l'INRA, le CEA, tout ça, vous avez quand même un certain nombre de postes qui sont mis au concours chaque année. Ils ne sont jamais ciblés sur une unité de recherche. Ils sont souvent ciblés. Quand ils sont ciblés sur des thématiques, et c'est la notoriété de l'équipe accueillante et la qualité du chercheur qui va présenter le projet de recherche qui fait qu'il sera intégré ou pas intégré. Le domaine de la recherche à Lille, c'est 200 personnes à peu près. Mmh. On y dirait qu'il y a 120 enseignants-chercheurs et puis 90 chercheurs des EPST. Donc nous avons, vous savez, une parité 50% milieu universitaire et 50% CNRS majoritairement, ou INSERM ou INRA. À côté de ça, vous avez aussi ce qu'on appelle les ingénieurs et les techniciens, hein, qui sont des gens sans lesquels on ne peut pas travailler. Et nous en avons à peu près une centaine, à peu près. Mmh. Et sur le campus, nous avons quelque chose comme 120, dans ce domaine, quelque chose comme 120 étudiants en thèse, ou personnes qui ont déjà obtenu leur thèse, mais qui viennent d'autres horizons réaliser ce qu'on appelle le post-doctorat.
Est-ce que le fait que l'université de Lille se situe dans une technopole, on voit quand même des développements d'équipements, je pense à la Haute-Borne, des choses comme ça, a un intérêt, ou est-ce que la recherche en labo et avec les connexions Internet, etc., ou intranet suffisent?
C'est-à-dire que nous avons quand même développé des pôles. Hein. Je vous ai parlé de la résonance magnétique nucléaire. Nous sommes l'un des grands pôles français. Alors c'est utilisé aussi bien par les physiciens, par les chimistes, mais aussi en grande partie par les biologistes. Nous avons ici développé une grosse plateforme de protéomique. Donc pour ça, nous avons acquis une notoriété, si vous voulez. Donc les gens viennent travailler avec nous, ou demandent à venir travailler avec nous. On ne peut pas développer... Tout, hein. Je pense pas qu'actuellement, vu la complexité des équipements, toute université ou tout centre puisse développer toutes les recherches qui existent. Mm-hmm. Obligatoirement, on se spécialise et nous spécialisons de plus en plus vers l'étude des biomolécules.
Si vous aviez un vœu en termes d'équipement pour votre unité de recherche, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir ?
Alors, je dirais que nous ne travaillons plus forcément en termes d'unité de recherche actuellement. Mm-hmm. Bien sûr que les unités de recherche existent, mais nous travaillons surtout en institut. Donc sur l'île 1, vous avez un institut, c'est l'Institut de recherche en protéomique et glycobiologie, IFR 147. Là-dedans, nous sommes quelque chose comme 300 personnes qui travaillons, vous voyez. Nous avons l'Institut de biologie de Lille, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est un institut qui est localisé à Lille, sur le campus Pasteur, mais qui est contractualisé avec l'île 1 et qui travaille sur le développement des tumeurs cancéreuses. Nous avons ces spécialités-là. Alors quand nous développons les achats d'équipements, si vous voulez, nous les contractualisons. C'est-à-dire que nous avons plusieurs sources de financement qui sont des sources de financement universitaires, bien sûr, mais vous avez aussi la région, le CPER.
Donc s'il fallait dire un matériel particulier, vous penseriez à quoi ?
Oh là, nous équipons beaucoup nos plateformes en spectrométrie de masse. Mais bon, ça, on trouve les financements. Peut-être pour nous, ce serait essayer de développer un peu plus l'animalerie que nous avons, mais... Disons que ça, ce sont des choses que nous planifions sur plusieurs années, si vous voulez.
Merci Joël Mazerier. Bonne journée.